auditeurs de Radio Courtoisie, nous allons démarrer cette deuxième partie de mission avec un petit peu de retard. Juste quelques minutes, le temps d'établir la liaison avec notre invité. Nous écoutons un morceau de musique quelques instants et nous vous reprenons tout de suite en direct. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, après cet intermède musical, nous avons pu établir la relation, la connexion avec notre deuxième invité pour cette deuxième partie d'émission du Libre Journal des Amitiés Françaises. Et nous souhaitons bien entendu la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous allons parler ce soir du peintre Jacques Louis et David. Nous avions consacré il y a quelques semaines une émission à l'histoire de la salle du Jeu de Paume. Et il y a dans cette salle du Jeu de Paume un magnifique tableau qui est réalisé par le peintre Merson à partir justement de l'esquisse réalisée par David à la demande de la convention de l'époque sur justement ce serment du Jeu de Paume. Mais pour des raisons d'ailleurs que nous allons certainement aborder ce soir avec notre invité, David n'est pas allé jusqu'au bout et s'est donc limité à cette esquisse. Et en effet, ce peintre a activement participé, nous allons le voir, à la période la plus violente et la plus sanglante de la Révolution française. Il y a été particulièrement actif car il s'est engagé auprès de Robespierre et des Jacobins. C'est lui, par exemple, qui arrache les horribles aveux du petit Louis XVII contre sa mère Marie-Antoinette. Il vote pour la mort du roi, celle bien sûr de Marie-Antoinette, et signe l'envoi à l'échafaud de tant de victimes innocentes du tribunal révolutionnaire. C'est lui aussi qui dessine des portraits de Danton et de ses co-accusés durant leur procès. Et celui bouleversant de Marie-Antoinette, hein, il se place à l'étage d'une maison sur le trajet justement de Marie-Antoinette dans sa charrette qui l'amène à l'échafaud, ce qui nous vaut ce portrait terrible de la reine. Alors évidemment, tout cela condamne David hein, comme individu, mais peut-on le résumer et le renvoyer uniquement à ses actes condamnables et à cet engagement auprès de Robespierre? Il demeure, sa peinture hein, qui fait de lui le maître du néoclassicisme, hein, qui est la peinture de son époque, et le père, hein, certains disent, c'est l'empereur des peintres de son époque, et bien le père de tous les grands peintres du début du 19e siècle, et il sera d'ailleurs le professeur de nombre d'entre eux, et ne serait-ce par exemple que Ingres. Qui était le peintre Jacques-Louis et David? Quelle fut sa carrière artistique? Pourquoi s'est-il engagé politiquement? Ce qui nous semble très éloigné de ce qu'on pourrait être la délicatesse d'un véritable artiste, et son engagement politique l'a mené à avoir des comportements totalement inverses. Comment échappa-t-il à la Restauration, aux vengeances et aux condamnations qui étaient courantes à cette époque? Eh bien, une complète et passionnante biographie raconte en effet la vie du peintre David. Et cette vie, nous allons le voir, ne peut se dissocier de celui pour qui il eut un véritable coup de foudre. Ce fut d'ailleurs un coup de foudre réciproque. Il s'agit en effet de Bonaparte, de Napoléon, en qui David montra d'ailleurs une fidélité absolue. Comme quoi on peut être à la fois un farouche jacobin et un napoléonien convaincu. Nous avons le plaisir de recevoir David Chantoran, qui vient de faire justement, d'écrire cette superbe biographie consacrée à ce peintre. Il l'a publiée aux éditions Passé Composé et la titre Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. David Chantoran, bonsoir.
Bonsoir.
Eh bien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct. Nous vous recevons avec grand plaisir pour évoquer l'histoire de ce grand peintre, hein, tel que vous le faites dans votre livre. Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises, hein, je crois, à Radio Courtoisie.
Oui, tout à fait.
Hein, sur différents livres que vous avez écrits. Et ce thème-là, d'ailleurs, je rappelle néanmoins aux auditeurs que vous êtes historien de l'art. Vous êtes le directeur des sites patrimoniaux de la ville de Rueil-Malmaison. Bien sûr, ils sont nombreux, notamment en ce qui concerne l'Empire. Vous êtes rédacteur en chef de la revue du souvenir napoléonien et administrateur de l'Institut Napoléon. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, je ne les citerai pas tous, mais je vais citer Napoléon, Les derniers témoins racontent, que vous avez publié aux éditions du Rocher, et puis aussi Chronique des territoires, comment les régions ont construit la nation. C'est un livre que vous avez publié récemment d'ailleurs aux éditions Passé Composé. En 2023. David Chantoran, c'est Napoléon qui vous conduit à David, ou vous avez toujours été intéressé par la vie un peu particulière quand même hein, de ce peintre?
C'est un peu les deux, parce que le personnage de Napoléon J'y consacre évidemment une grande partie de mes travaux universitaires et de mes recherches ou de mes livres. Mais en 2004, lorsqu'il a été question de faire une grande exposition au musée du Louvre consacrée au tableau du Sacre par David, eh bien, j'avais été commissaire associé et à ce titre, j'ai travaillé pendant plusieurs mois sur ce tableau, sur ses arcanes. On sait qu'il y a certains personnages qui ont été ajoutés par le peintre. Et donc, je tournais autour de David. Alors, il y a aussi l'homonymie avec le nom du peintre et puis mon prénom, mais
Bien sûr.
surtout, je tournais autour du peintre depuis un certain temps. Et comme étant historien et historien de l'art, le peintre David, comme vous l'avez très justement rappelé, est incontournable pour cette période, à la fois pour son talent à lui personnel, mais aussi pour les 650 élèves qu'il a formés dans ses ateliers. Donc, il est vraiment le personnage influent de cette période, et non seulement pour le domaine artistique, mais aussi politique, il est un des incontournables. Et malgré la différence qu'il a avec Napoléon, 21 ans les séparent, eh bien, il a compté tout autant, si ce n'est peut-être davantage, dans les influences que certains autres personnages, mais il n'y a pas d'équivalent, évidemment, à Napoléon.
Alors, il n'a pas l'image d'un personnage très sympathique, sans doute pour ses engagements très discutables et cruels même. Hein. Durant la Révolution, on se demande comment quelqu'un qui est un tel génie artistique a pu s'engager de cette manière. Mais ce qui surprend à la fois, c'est cette réputation, et puis qui est quand même confortée par les faits. Et vous avez parlé de ces très nombreux, ces centaines d'élèves, et on découvre en lisant votre biographie. Notamment lorsqu'il est à Bruxelles, ses élèves l'apprécient beaucoup.
Oui, c'est souvent le cas des artistes. L'actualité nous le rappelle. On essaie toujours de rappeler que les engagements personnels d'un artiste sont différents de son art. Alors, ce n'est pas qu'il faille séparer l'artiste du personnage lui-même, mais chez David, c'est tout à fait le cas, en particulier au moment de la Révolution. Son épouse, Charlotte Pécoule, qui était la fille d'un des membres du bâtiment du roi, avait tellement détesté l'engagement qui était le sien pendant cette période qu'en 1790, elle demande le divorce, elle prend ses deux filles sous le bras, elles avaient eu également deux fils ensemble, et elle demande le divorce, et ça n'est qu'en 1794, lorsque David est arrêté, jugé, et il manque même d'être guillotiné, que Charlotte revient à ses côtés, qu'elle améliore son ordinaire, et que finalement, voyant que son mari a oublié ces moments d'engagement et cette radicalité révolutionnaire, eh bien finalement, plus tard, en 1796, elle épouse de nouveau David.
Oui.
Donc, ce qui montre qu'il y a une parenthèse terrible dans sa vie. Tout le reste, comme vous l'avez rappelé, il a été très proche de ses élèves et c'est un très bon maître.
Il va falloir nous expliquer quelle était en effet sa personnalité. Était-il antipathique, comme on pourrait le croire, notamment avec de tels engagements, une telle attitude? Et pourtant, vous le soulignez, sa femme a une attitude extraordinaire lorsqu'il est emprisonné, et puis nous l'avons dit. Hein. Et vous le soulignez dans votre livre, c'est la fidélité de ses élèves. Nous comptons sur vous pour nous expliquer finalement, au fond, qui était-il, quel comportement, quel était son caractère, est-ce qu'il était aimable ou au contraire, effectivement, pas du tout aimable, pas du tout
Non.
sympathique. Oui.
Oui, c'est un personnage qui, par sa formation déjà, est assez radical, mais surtout, il faut peut-être comprendre aussi dans sa jeunesse, il a perdu son père alors qu'il était très jeune, ce père qui le destinait à une autre carrière, mais ce père qui est mort d'un duel. Et donc, orphelin de père, formé par le peintre Boucher dans des ateliers de peinture très jeune, avec des élèves qui étaient beaucoup plus âgés que lui, il a dû se forger un caractère, et ce caractère, on le retrouve à la fois dans sa formation d'artiste, et puis surtout, eh bien, au moment de la Révolution, eh bien, cette haine qu'il a contre l'autoritarisme, contre l'académie, eh bien, cette haine va se transformer en un caractère encore plus terrible au moment de la Terreur. Mais le reste du temps, c'est quelqu'un qui est très attentif, qui favorise par exemple l'enseignement des jeunes filles dans son atelier de peinture, qui est très proche de ses élèves, qui leur montre d'ailleurs comment il faut travailler, alors que d'un point de vue politique, c'est quelqu'un d'assez, on va dire, assez irascible. Mais c'est un personnage qui, je vous dis, gagne à être connu parce que au-delà de tout ce qu'il a pu faire au moment de la Révolution en particulier, vous l'avez dit, c'était horrible ce qu'il a pu faire en étant à l'instruction du procès de la reine. Tout le reste du temps, c'est quelqu'un qui est vraiment fidèle à ses engagements et en particulier ses engagements après la Révolution, puisqu'il va rester fidèle à Bonaparte de 1797 jusqu'à ses derniers jours en 1825.
Nous comptons bien sur vous pour nous expliquer d'où vient cette haine qui le conduit à... Viens, on pourra l'aborder au moment de la Révolution, si vous voulez bien, David Chantaron. Mais c'est sa femme qui demande le divorce, ce n'est pas lui. Je crois que c'était lui qui avait décidé de divorcer. C'est sa femme qui demande le divorce.
Oui. C'est sa femme qui la demande.
Oui, parce qu'elle est dégoûtée par ses engagements aux côtés de la Révolution.
Oui. Oui, elle le dit d'ailleurs, elle écrit à l'une de ses amies en lui disant « Je ne reconnais plus mon mari, il est emporté par ce mouvement et il est trop proche des Jacobins. » Et finalement, ça va conduire David à être à la fois proche de Robespierre, de Saint-Just, de Marat. Et puis surtout, il sera élu comme député à la Convention en 1792, en septembre. Et surtout, il va présider cette Convention nationale dans le Comité de Sûreté Générale. Il va présider la Convention nationale en janvier 1794. Donc, il est le chef de l'État pendant 3 semaines. Que c'était une présidence tournante.
Et malgré ça, il s'en sort quand même. Vous expliquerez aussi pourquoi il s'en sort. Alors, seulement, il a le rôle notamment de sa femme et puis d'un certain nombre d'autres personnes qui sont intervenues pour lui. Et puis, il a l'attitude qui lui permet aussi, vous l'expliquez comment, hein, dans votre livre, David Chantran, Jacques-Louis David, L'Empereur des Peintres, il a une attitude, il fait un peu son mea culpa hein, pour effectivement éviter la guillotine, ce qu'il arrive naturellement à faire. Vous expliquez d'ailleurs, cette haine viendrait peut-être de la haine qu'il a pour l'Académie. Et l'Académie était girondine. Est-ce que c'est vrai, ça? Et c'est ça qui l'a conduit à aller faire Robespierre. C'est quelqu'un de très... C'est affreux.
Oui, c'est quelqu'un en fait de radical. L'Académie l'a refusé à 3 reprises au concours de peinture. Et voyant que ça n'est plus du tout dans ses cordes et qu'il... il est vraiment détesté de ce jury, eh bien, il tente de se suicider en faisant une grève de la faim. Il ne doit d'ailleurs de son salut qu'à un dramaturge de l'époque et son parrain, qui s'appelle Sedaine. Mm-hmm. Et Sedaine le sauve en le faisant, finalement, en lui faisant changer un peu son regard. Il devient décorateur d'une grande cantatrice et comédienne de l'époque qui s'appelle Mademoiselle Guimard, qui s'était fâchée avec un autre peintre précédemment, Fragonard. Et donc, la Guimard demande à David de faire son décor d'hôtel particulier. Il retrouve donc le goût, mais il gardera une haine farouche contre l'Académie. Et même s'il en fait partie à la 5e reprise, et il fait d'ailleurs le voyage à Rome, et bien il gardera cette haine tout au long de sa vie. Et ça explique une partie de ce caractère trempé qui est celui de David.
J'aimerais vous poser, j'aurais dû commencer par cette question, David Chantran, pourquoi devons-nous nous intéresser à ce peintre? Et donc lire, naturellement, votre biographie, ça va de soi.
Tout simplement parce que c'est peut-être le seul cas dans l'histoire de France où un artiste de cette envergure, je ne parle pas d'autres artistes, mais un artiste de cette envergure, et je parle même de tous les artistes, c'est-à-dire aussi bien littérature, peinture, architecture et autres, mais un artiste de cette envergure ait eu de telles responsabilités. Il faut s'imaginer qu'auparavant, les artistes sont cantonnés à leur art, tant et si bien d'ailleurs qu'ils peuvent avoir des relations évidemment avec les politiques. Mais dans le cas de David, c'est notamment l'importance de cette période révolutionnaire, il est devenu notre chef de l'État. Et il n'y a pas d'équivalent. Donc il a eu dans ses mains la responsabilité à la fois d'un pays pour les éléments intérieurs, mais surtout à une époque où la France est en guerre avec quasiment toute l'Europe coalisée, et bien que c'est lui qui a dirigé à la fois les armées et puis tous les éléments de protection des civils. Donc, au moment où Bonaparte, après, arrive au pouvoir, il sait de quoi il parle, même s'il n'a pas été aux affaires très longtemps, il sait exactement de quoi il parle. Donc, c'est important de s'intéresser à cet art, parce qu'il a eu une influence, évidemment, parce que ses tableaux sont très célèbres, non seulement au musée du Louvre, mais un peu partout, puisque les collections aiment beaucoup David, et ça reste un artiste très très bien coté, mais surtout qu'il a une influence, non seulement pour la postérité, auprès des artistes pompiers, comme Ingres, qui était d'ailleurs un de ses élèves, on ne peut pas dire qu'il soit pompier tout à fait, mais les peintures classiques. Et puis surtout parce que d'un point de vue politique, il a eu des destinées de la France et c'est un cas tout à fait important.
Et comment expliquez-vous qu'il y a eu ce coup de foudre mutuel? C'est le terme que vous utilisez entre lui et Bonaparte. Hein, si on voit pour la première fois, c'est en Italie, à l'état-major de Bonaparte. Il y a un coup de foudre mutuel. Qu'est-ce qu'il y a? Alors on peut comprendre ce qui aurait pu séduire, encore vous le décrivez comme rétif à l'autorité, mais Bonaparte c'est quelqu'un d'extrêmement autoritaire, ça ne l'a pas empêché de lui être fidèle, et on le verra notamment à la fin de sa carrière en France, hein, puisqu'il prend parti pour Napoléon lors des 100 jours. Qu'est-ce qui a pu causer ce coup de foudre réciproque, Bonaparte chez David et l'inverse?
C'est-à-dire que chez David, il refuse toute forme d'autoritarisme. En revanche, des personnages qui ont du charisme naturel, il le dit, il l'a dit au moment de la Révolution avec des gens comme Robespierre, eh bien, le charisme, il va le retrouver chez Bonaparte. Et là, il accepte toute forme de directive, il accepte de participer à des concours de peinture, alors lui qui se dit plutôt supérieur à tout cela, il l'accepte parce que ça vient de Bonaparte et qu'il comprend que cet homme a une destinée tout à fait exceptionnelle. Donc lorsqu'il le rencontre en Italie, c'est à l'invitation d'un de ses anciens élèves, Antoine Jean Gros, le futur baron Gros, l'invite en lui disant: « Je suis en train de peindre en substance le passage du pont d'Arcole, venez maître découvrir cet homme qui va étonner le monde. » Et cette première rencontre, qui est assez fortuite, va se confirmer en décembre 97. Et ce coup de foudre, en réalité, elle est de deux natures. D'abord parce que ce sont des caractères, même s'ils sont éloignés par l'âge, parce qu'ils ont 21 ans d'écart. David est né en 1748 et Napoléon en 1769. Et malgré cet écart, eh bien, ils ont un intérêt commun, celui à la fois de servir leur postérité, ça c'est tout à fait vrai, leur carrière, mais aussi parce qu'ils ont tellement trempé dans la Révolution qu'il faut le faire oublier et que pour l'un, il a besoin du charisme de l'autre, et que pour Bonaparte, il a besoin des pinceaux de David qui vont éterniser ses traits. Et on se souvient tous des grands tableaux, que ce soit le passage du pont d'Arcole de Gros, mais surtout le passage du Grand Saint-Bernard par David, et surtout le sacre qui va rester un moment majeur de sa carrière.
Mais Napoléon, enfin Bonaparte, et puis Napoléon choisit David. David comme peintre justement de tous ces grands moments du consulat et de l'Empire, parce que Napoléon considère qu'il est le meilleur peintre de son époque.
Vous avez raison, il est à la fois considéré comme le maître vraiment de cette nouvelle école française qu'il a régénérée avec le Serment des Horaces depuis 1785, qui était un choc esthétique, où vraiment la radicalité de la peinture et surtout l'esthétisme est quasi photographique. Donc ça va marquer les esprits à cette époque. Et puis l'autre aspect, c'est que David touche à tout. À la différence d'autres artistes qui sont uniquement peintres avec du talent, David peut aussi se montrer à la fois décorateur, je l'ai dit, mais c'est lui qui dessine les uniformes, qui dessine les drapeaux. Le drapeau bleu, blanc, rouge tel que nous connaissons, c'est David qui l'a dessiné. La répartition du bleu, blanc, rouge, auparavant, on dessinait le bleu, blanc, rouge de façon différente, dans des cocardes, dans des drapeaux, des étendards, où le bleu, blanc, rouge était mêlé. Là, il l'a fait de manière radicale avec ces trois bandes que nous connaissons. Il fait également les cartes à jouer. Les fameuses cartes avec lesquelles vous jouez, par exemple, à la belote ou tout ça, c'est David, c'est le peintre qui les a dessinées. Et puis il le fait dans plein d'autres directions. C'est lui également qui s'occupe de tout ce qui est militaire, de tout ce qui est civil. Donc il est vraiment un talent protéiforme. Et David a vraiment connu en Napoléon le personnage qui nécessitait finalement d'exploiter son talent à part entière.
Et puis vous nous rappelez aussi que c'est lui qui a dessiné l'esquisse de Bonaparte qui servira au billet de 100 francs.
Exactement. Cette esquisse, elle est issue d'une séance de pause de 3 h 30. Bonaparte, après la rencontre d'un dîner qui donc est lié à ce fameux coup de foudre à la fois esthétique, amical et politique, eh bien le lendemain, Bonaparte est invité dans le salon et dans l'atelier du peintre. Et pendant 3 h 30, il pose, ce qui est très rare chez lui, et il en reste effectivement ce portrait inachevé qui va figurer sur les billets de banque. Et David va donc connaître une grande épopée ensuite bonapartiste, on va dire, sans jeu de mots aucun, mais il le fera également. C'est lui qui dessine le premier esquisse de la Légion d'honneur. Ce ne sera pas retenu, mais c'est vraiment lui qui est auprès de Bonaparte dans tous les aspects. Et il peindra de grands tableaux, notamment allégoriques. Au début du consulat, ce sera les Sabines, qui rappellent l'union des Français après toutes les luttes intestines. Et puis à la fin, avec le Léonidas aux Thermopyles, c'est aussi une allégorie de la situation de la France, une France où les derniers combattants, en nombre très restreint, comme du temps des Spartiates à l'époque, étaient envahis par des coalisés. Ben, c'est exactement la situation que la France connaît avec Napoléon en 1814. Donc David interprète, sans que Napoléon lui dise exactement, il interprète exactement la pensée qui est celle du chef de l'État à l'époque.
Je vous propose que nous prenions l'histoire par son commencement. Vous nous avez rappelé que David est né en 1748. Il a quand même dans sa famille de très grands peintres. Il est le neveu, ou non, le petit cousin de Boucher. Neveu, petit cousin, je ne sais pas ce que.
C'est ça, petit cousin.
Petit
Il est
cousin,
petit
oui.
cousin par sa grand-mère, par cette alliance qui s'est faite. Et donc Boucher perçoit tout de suite le talent du jeune artiste, mais se rend compte assez rapidement qu'il n'est pas destiné à devenir un peintre rococo. Donc il l'envoie dans un autre atelier, celui de Vien, qui est un artiste cette fois-ci néoclassique et qui correspond davantage avec les engagements et surtout les aspirations du jeune homme. Et il va donc prendre la suite de Vien. Il respectera d'ailleurs tout le temps son maître jusqu'à ses derniers jours. Et il fera d'ailleurs l'éloge funéraire de l'éloge funèbre de son maître. Donc David, c'est vraiment un personnage à la fois fidèle et attachant, mais qui parfois a de mauvais côtés. Mais ça tient, je vous le disais, peut-être à cette jeunesse et puis au premier refus qu'il a contracté au moment où il se présentait au concours de peinture. Mais avec Boucher et avec Vien, il va devenir un fervent admirateur de ses maîtres et il poursuivra dans leur perspective avec des tableaux qui vont demeurer parmi les plus célèbres de cette époque.
Alors, vous l'avez rappelé, hein, ses débuts sont difficiles. Il tente de se suicider d'ailleurs, parce qu'il échoue plusieurs fois au prix de
Oui,
Rome.
au prix de Rome. En revanche, quand il obtient enfin ce prix de Rome à partir de cette cinquième tentative, il fait le grand voyage, ce grand tour que
Oui.
tout le monde connaît maintenant du XVIIIe siècle, où il découvre à la fois Venise, Parme, Florence. Et lorsqu'il arrive à Rome, alors qu'il a fait affirmer à tout son entourage qu'il resterait un peintre français jusqu'au bout de sa palette et de ses pinceaux, eh bien, il écrit à sa famille en leur disant « J'ai été opéré de la cataracte ». Entendez par là que la peinture italienne a totalement transformé son regard. Et à partir de ce moment-là, en ayant vu Caravage, eh bien, sa palette, ses couleurs très chaudes vont dominer dans ses tableaux. Et cette alliance, en fait, cette synthèse qu'il fait entre l'art français, tout de droiture et de lignes, et la peinture très chaude de l'Italie, vont donner à ses toiles on va dire une tendance qu'il est le seul à pouvoir maîtriser avec une telle perfection.
Quelles sont ses premières grandes œuvres et comment décririez-vous son style?
Alors, dans un premier temps, il reçoit des commandes plutôt liées à des personnages en lien avec l'esprit chrétien. Il fait par exemple un Saint Roch intercédant auprès de la Vierge pour sauver les pestiférés. C'est une commande qui lui est passée par le Lazaret de Marseille. Mais ça va être ses dernières représentations, on va dire, religieuses, parce qu'après, il se consacre uniquement à des sujets soit mythologiques, soit en lien avec l'Antiquité. Et donc, ses premières toiles, on retrouve un Bélisaire demandant l'aumône, Bélisaire qui était un général du Bas-Empire romain. Et puis ensuite, je vous le disais, ce serment des Horaces, qui rappelle que le combat des Horaces contre les Curiaces avait nécessité un serment initial du père qui est au centre de la toile et qui fait prêter à ses trois fils un serment pour combattre jusqu'au dernier sang, alors que se trouvent sur le côté droit de la toile les femmes et les familiers. Et puis surtout, David choisit toujours des scènes qui vont frapper les esprits, à la différence de scènes mythologiques ou plutôt aimables. Lui, c'est plutôt le moment du climax, le moment le plus terrible ou le plus dramatique qu'il choisit, et ça va frapper surtout l'esprit de ses contemporains.
Alors, c'est l'époque où il se marie, hein, vous l'avez précisé tout à l'heure, avec Marguerite Charlotte Pécou, qui est âgée de 16 ans, à son mariage. Et lorsqu'il peint les Horaces, hein, vous parlez d'un choc. Le choc des Horaces, c'est le titre de votre chapitre. Cette œuvre provoque un triomphe absolu.
Oui, le triomphe, en réalité, c'est par contraste avec ce qui se peint à l'époque. Il faut s'imaginer qu'au salon de peinture de 1785, son tableau est exposé en même temps que celui de Madame Vigée-Lebrun, qui représente Marie-Antoinette entourée de ses enfants.
Oui.
Donc, avec cette scène plutôt familière et puis le serment des Horaces en face, vous imaginez, le public a dû être plus que surpris. Et donc, ça lui vaut les inimitiés d'une partie du jury, qui ne comprend pas qu'on puisse heurter avec un élément aussi militaire, aussi radical. Mais de l'autre, ça lui vaut l'admiration d'une grande partie de la jeune génération des artistes. Et dès cet instant, il réunit près de 120 élèves dans son atelier. Et à partir de ce moment, eh bien, la carrière de David est véritablement lancée. Il est non seulement un artiste en avance sur son temps, mais surtout, cela lui vaut une grande proximité. Et surtout une grande ferveur de toute la jeune génération qui veut travailler à son contact.
Alors, cette génération, il y a par exemple Giraudet qui obtient le prix de Rome. Et il y a aussi le Gérard, le peintre Gérard. Comment ces peintres, vous les comparez à David, Gérard et Giraudet? David reste le maître ou ses
Alors,
élèves fameux vont arriver à son niveau?
c'est ça qui est assez étonnant. Dans des ateliers de peinture, on pourrait s'imaginer que chacun doit travailler exactement comme le maître le souhaite. En
Oui.
réalité, David leur laisse pleine liberté à la fois de traitement, de formulation, de choix esthétique. Et c'est pour cette raison que dans la 10 ateliers de David, il y en a eu plusieurs d'ailleurs, il y a eu près de 650 élèves, je vous le disais, à la fin de sa carrière qui ont été comptabilisés, eh bien, on retrouve à la fois la tendance très néoclassique, avec par exemple Ingres. On retrouve l'art du portrait, parce que David est un portraitiste hors du commun, et Gérard sera considéré comme le peintre des rois et le roi des peintres à la suite de son maître David. Et puis de l'autre, on a des gens comme Giraudet, comme Gros, qui sont plutôt pré-romantiques. Et donc ça montre que David laisse ces différents courants stylistiques librement s'exercer dans son atelier, sans qu'il exerce au contraire une limite, ni une certaine une certaine rigueur, comme on peut parfois s'y attendre d'un maître qui pourrait être dictateur.
Alors nous en arrivons à la période de la Révolution. Vous allez nous rappeler en effet dans quelles circonstances il est amené à s'engager. Il y a une peinture de David que j'aimerais que vous évoquiez parce qu'elle est un peu différente. Et il l'a composée avant, hein, le choc des Horaces, juste avant. Elle semble être d'un style un peu différent de ses autres peintures et pourtant elle est magnifique. C'est un portrait équestre, le portrait équestre du comte Stanislas Potocki.
Alors, cette toile, elle est commandée par le comte qui fait le grand tour également comme lui. Les deux hommes se sont rencontrés à Naples et Potocki prévoit déjà l'affaiblissement de la Pologne, sa Pologne natale. Et donc, il demande à avoir un portrait qui le valorise. Donc, David le représente sur son cheval, un cheval blanc dont l'allure est extraordinaire. Et donc, très noblement installé, Potocki salue le spectateur de son chapeau et fait l'admiration vraiment de toutes les personnes qu'il admire lorsque le tableau est exposé au salon. Mais de l'autre, David ne manque pas d'insérer au sein donc de cette représentation un chien qui, négligemment posé en bas à gauche de la toile, est en train d'aboyer. Et en fait, à travers cette présentation de ce chien en bas à gauche qui est en train d'aboyer, c'est aussi pour rappeler que le peuple est en train de crier et que cette noblesse si bien installée sur son cheval montre que la noblesse, on voit bien symboliquement à quoi ça fait allusion, la noblesse devrait se méfier des cris du peuple qui sont en train de gronder à travers toute l'Europe. Donc chez David, il y a toujours cette dichotomie, cette opposition de style. À la fois, il répond à la commande, mais de l'autre, il ne peut pas s'empêcher de mettre une certaine provocation dans tout cela. Et le chien qui est ici représenté avec le portrait est un des éléments majeurs.
Alors là, je m'adresse au critique d'art, à l'historien de l'art, si vous voulez bien, David Chanterane, concernant ce tableau que je trouve magnifique. Mais vous écrivez qu'il a subi quelques commentaires acerbes, notamment sur le traitement des linges et des étoiles qui sont trop brillantes. Vous partagez
Oui,
cet
parce
avis?
que
Vous partagez cette critique?
oui, et d'ailleurs David lui-même l'a comprise.
Oui?
En réalité, comme il est trop intéressé par la symbolique qu'il veut donner à ce portrait, notamment avec le chien qui est installé en bas à gauche, eh bien il néglige un certain nombre de traitements et il écoute d'ailleurs. C'est ça qui était très, très étonnant. Il refuse sur le coup parce qu'il se dit qu'il est au-delà et au-dessus de toutes ces considérations, mais il le comprend. Et c'est pour cette raison qu'il va l'améliorer dans les tableaux qui suivront, à la fois le serment des Horaces dont on avait parlé, qui le précède dans la formation, mais qui va le suivre dans la réalisation technique, et surtout dans le tableau que David doit composer lorsqu'il revient à Paris, cette douleur et les regrets d'Andromaque, où là, il n'y a plus du tout de faute de goût ni de traitement. Donc, ça veut dire qu'il a tout à fait entendu la critique qui s'était abattue, si l'on peut dire, sur son tableau du comte Potocki.
Alors je vous propose d'évoquer maintenant le début de la Révolution, avec la chute de la Bastille et surtout ce fameux tableau du serment du jeu de paume.
Alors, le serment du jeu de paume, David va en avoir la commande assez naturellement. Lui qui s'était fait une spécialité des moments importants de l'histoire antique, eh bien, au moment où l'histoire est en train de s'écrire, au moment où l'histoire est en train de s'écrire de l'histoire révolutionnaire, eh bien, il reçoit donc une commande. La commande vient de la Convention qui lui demande d'éterniser les instants de ce moment du 20 juin 1789, où l'ensemble des députés, ou du moins des représentants du peuple, s'étaient jurés de ne jamais sortir de cette salle avant d'avoir offert une assemblée nationale. Et donc David, recevant cette commande, commence à peindre. Et la toile a d'immenses dimensions prévues, 10 mètres par 7. Le problème, c'est que, on s'en souvient, la Révolution s'accélère. Et des personnages qui figurent normalement sur la toile comme Mirabeau ou Barère sont considérés soit comme trop neutres, soit au contraire comme des traîtres à la nouvelle patrie. Donc, David en est quitte pour poser ses pinceaux. Et d'un tableau qui n'était donc inachevé, il faudra attendre 80 ans pour qu'un autre artiste, sous la
Merci.
Troisième République, reprenne la version, merci, donc, et reprenne la version pour l'achever en couleur. Mais David en est quitte finalement pour ne faire qu'une esquisse préparatoire. Et ce qu'on en connaît, c'est cette toile qui a été exposée encore récemment au musée du Louvre, qui montre uniquement quelques visages et quelques mains. Et David n'a pas eu la possibilité d'achever la toile qui avait été commandée.
Ces quelques visages, il les reçoit dans son atelier d'ailleurs. Il
Oui,
reçoit les
parce qu'au départ,
personnes.
au départ, il pensait uniquement représenter des visages anonymes pour essayer de montrer le souffle qu'il avait emporté. Mais finalement, à la demande de la Convention, il a voulu présenter exactement les visages des personnages qui avaient figuré pendant ce serment du jeu de paume. Et des 650 portraits qui devaient figurer là, eh bien, il n'y en a que quelques-uns qui ont pu poser dans son atelier et être exécutés réellement parce que, entre-temps, on s'est rendu compte que ce tableau heurtait les consciences et qu'il faisait figurer des personnes qui, entre-temps, avaient été considérées comme des traîtres à la patrie.
Mais il reçoit la consigne d'arrêter ou c'est de lui-même?
Les deux, c'est-à-dire qu'il comprend bien que, de toute façon, comme il est devenu député en 1792, que cette toile, alors qu'il envisage peut-être de la reprendre à d'autres moments, que cette toile sera trop complexe à mettre en œuvre et que, surtout, parce qu'elle nécessite 3 ans et demi, il faudrait qu'il y ait une sorte de consensus. Mais le consensus et la révolution, ce sont deux mots qui sont
Oui.
opposés. Donc, il en est quitte pour finalement se retrouver dans d'autres compositions et il va faire des portraits de personnages de la Révolution, 3 portraits qui vont devenir les grands martyrs de la Révolution, le Pelletier de Saint-Fargeau, Marat et le jeune tambour Barat.
Bah aussi, oui. Alors, nous allons évoquer vite cette période de la Révolution dont vous dites, malgré ces 3 tableaux, celui de Marat est extrêmement bien sûr connu, réputé, vous dites quand même que sa production souffre, hein, de son engagement politique. Alors, vous venez de le préciser, il est élu député, hein, de Paris à la Convention nationale. Comment, par quelles circonstances, comment rentre-t-il justement dans ces instances politiques?
Il le fait de façon très naturelle en se présentant tout simplement à l'élection, mais il bénéficie effectivement du soutien très appuyé du club des Jacobins arrivé au pouvoir qui a écarté, vous l'avez rappelé, les Girondins et surtout parce que l'influence de Robespierre lui permet d'entrer et d'arriver à la tribune de façon assez facile. En réalité, il bénéficie d'un fort soutien financier et surtout, on essaie de faire oublier les difficultés que David a de prononcer des discours à la tribune parce qu'il souffre, on ne l'a pas encore évoqué, il
Oui.
souffre d'une déformation de la joue, qu'il fait d'ailleurs appeler grosse joue par certains de ses camarades lorsqu'il est jeune enfant. Et donc, cette déformation, cette infirmité, lui fait zézeter d'un côté, lui fait transformer certains mots de façon difficile. Et donc, ce bégaiement parfois et ce zézement de l'autre, eh bien, lui valent à la fois les critiques de son entourage. Et donc, il transforme cela en une volonté finalement d'appuyer sur la qualité de ses discours. Et donc, il fait des discours très enflammés à la tribune pour essayer justement de se faire entendre et au contraire de faire valoir ses avantages et ses idées politiques.
Avant d'évoquer ses œuvres, ses peintures, et que vous les commentiez, David Chantrenne, tel que vous le faites dans votre livre, je rappelle le titre, Jacques-Louis David, l'empereur des peintres, que vous publiez aux éditions Passé Composé, avant d'évoquer ces quelques œuvres de la Révolution, je vous propose que vous nous racontiez les responsabilités qu'il a prises durant cette période révolutionnaire.
Alors, les responsabilités sont de deux natures. D'abord, il va s'occuper de plusieurs commissions. Et il fait partie de commissions comme la commission des arts, qui va d'ailleurs très rapidement supprimer toutes les académies. C'était un de ses chevaux de bataille, eh bien, il a maintenant la mainmise pour le faire. Et puis de l'autre, eh bien, en étant député, il entre aussi dans les différents comités, et en particulier le comité de sûreté générale, où à ce titre, eh bien, c'est lui qui instruit certains procès. On a dit pour Marie-Antoinette, mais ce sera le cas pour d'autres. Et donc, il va envoyer à l'échafaud, à ce titre, il va envoyer à l'échafaud, en signant ou en contresignant les ordres, près de 320 personnes, parmi lesquelles, d'ailleurs, c'est terrible, certains de ses anciens soutiens, certains de ses anciens mécènes, comme les frères Truden, qu'il avait aidé dans ses premiers travaux de peinture, et qu'il va envoyer à l'échafaud sans sourciller.
C'est vraiment affreux, ça le rend vraiment pas du tout sympathique quand même, hein,
Ah, mais
David
tout à
Chantrenne.
fait. Mais Mais il l'explique d'ailleurs dans certains de ses discours. Il explique, alors je ne dis pas qu'il faut le comprendre, mais il l'explique en disant qu'il faut régénérer les arts, qu'il ne faut pas se soucier de ses amitiés personnelles et que la moralité, dans cet esprit un peu de l'incorruptible comme l'était Robespierre, que la moralité est plus importante et que les mœurs que l'on doit mettre en avant sont plus importantes que toutes les pensées que l'on peut avoir en soi. Donc, il est dans une radicalité politique telle qu'on n'en aura plus connue après cette terreur, ou peut-être avec l'exception, bien sûr, de la Commune, mais ça, c'est un autre épisode.
Alors, il y aura sa propre défense à la chute de Robespierre, mais ça, c'est une question de. C'est opportuniste. À la fin de sa vie, s'est-il exprimé, a-t-il marqué, montré des regrets sur ses actions durant cette période
Jamais,
révolutionnaire? Jamais?
jamais,
Il s'est
jamais.
jamais
Il a
excusé?
cherché. Non, non,
Rien?
jamais. Il s'est justifié de son attitude lors du procès qui lui a été intenté. Il avait d'ailleurs de très bons avocats, à commencer par son épouse, hein, qui a été l'une des premières à prendre sa défense, à revenir le voir en prison et à faire en sorte que ses élèves signent des pétitions interminables et continuelles pour essayer de défendre. Et surtout, David, lorsqu'il se présente à la tribune et à la barre pour son procès, bien, considère finalement qu'il est le mieux à même de répondre à tout ce qu'on veut. Il dit, nous avons peut-être fait des erreurs en étant trop dans un certain sens, mais il n'en demeure pas moins que si la France veut continuer d'exister, il faut qu'elle reste maîtresse de son destin et que nous soyons des exemples même à suivre pour la mœurs, pour les mœurs et pour combattre l'infâme et surtout, parce qu'il déteste évidemment la religion, et pour surtout combattre les coalisés monarchistes qui se trouvent soit dans nos frontières, à l'intérieur de nos frontières, soit à l'extérieur.
Il n'est jamais revenu sur les aveux arrachés à Louis XVII, abominables
Jamais.
envers
Jamais.
sa mère.
Jamais. Et c'est en cela que c'est d'ailleurs assez terrible parce que,
Ouais.
il n'a jamais eu aucun scrupule à le faire à ce moment-là et tout au long de sa vie, il ne reviendra jamais, pour se justifier d'une manière ou d'une autre, en sachant de toute façon que celui qu'il va suivre, qui était Napoléon, eh bien Napoléon lui-même était très proche de la famille Robespierre, il était proche de Augustin, le frère cadet de Maximilien. Donc on va dire qu'il y avait une certaine proximité, entre les deux hommes qui faisait aussi qu'ils avaient un destin, à faire partager et à faire oublier aussi par la même occasion.
Mais enfin, Napoléon est quand même un autre homme sur le plan personnel. Hein.
C'est sûr, mais chez David, il a quand même atteint, on va dire, son paroxysme politique à ce moment-là, puisqu'après, il n'aura plus du tout de fonction, et il considère quand même qu'il a agi en cause et en fonction des circonstances qui étaient celles de la France de l'époque, qui, je vous le rappelle, avait appelé le peuple à se mettre en armes pour se défendre à la fois ses frontières après la bataille de Valmy et à faire proclamer cette république dans les conditions qu'on connaît.
Le 5 janvier, pendant plusieurs mois, il est élu président de la Convention nationale. Il a donc eu un rôle politique important.
Oui, il est notre chef de l'État et comme chef de l'État, c'est lui qui, je vous le disais, décide à la fois de la politique économique de la France. Alors, il le fait dans le cadre à la fois du comité de sûreté générale et le comité de salut public, donc il n'est pas seul à décider, mais il n'en demeure pas moins qu'il préside cette convention. Et comme je le disais, donc il s'occupe à la fois d'économie et de politique intérieure. Et à l'extérieur, c'est lui qui gère toutes les questions relatives aux armées, envoie les commissaires des guerres et fait en sorte justement que les procès qui sont intentés contre les plus modérés ou voire les traîtres, eh bien que ces procès conduisent jusqu'à l'échafaud, ceux qui, entre guillemets, l'ont mérité selon ses voeux.
Vous écrivez que Barrère l'a prévenu, l'a averti la veille de la chute de Robespierre. Il n'a pas pu l'éviter, cette chute, il n'a pas prévenu Robespierre de ce qui le guettait.
Non, parce qu'il n'y croyait pas. Et dans un mouvement un peu de bravache, l'avant-veille, avant qu'on ait plus de précision, l'avant-veille, David était monté à la tribune en disant: rassure-toi, toi l'incorruptible, si tu dois mourir, eh bien je te précéderai en buvant la ciguë. Il faisait bien sûr référence à Socrate qui était mort dans ces conditions. D'ailleurs, David avait fait un tableau de la mort de Socrate, donc il savait de quoi il parlait. Donc, on va dire qu'il était très au courant de ce qui pouvait arriver, mais au moment où la chute arrive et lorsqu'on le prévient, David se fait porter pâle alors qu'il s'était aventuré et s'était avancé à dire que il ne reconnaîtrait jamais ses adversaires, eh bien David essaie de se protéger Et pour tenter d'échapper à l'échafaud, il va se garder le lit pendant plusieurs jours, mais on le fait porter à la tribune et il faut qu'il vienne rendre des comptes, ce qu'il fera. Mais je vous le disais, en ayant deux aspects importants. D'abord, en arguant qu'il a des dossiers contre ses adversaires, en disant, mais vous avez fait partie des mêmes instances que moi, donc à quel titre devrais-je partir avant vous? Et surtout, en disant, moi, à la votre différence, j'ai un talent. Et le régime qui va suivre, le régime peut-être du directoire, on le saura plus tard, mais ce régime aura besoin de mes services, aura besoin de mes artistes, aura besoin de mes élèves. Donc, moi, je peux être utile en un temps où il n'y a ni télévision, ni image vraiment autrement que peinte. Eh bien, il sait très bien qu'un régime ne pourrait pas se passer de son talent et de sa façon dont il peut la représenter.
Et c'est ainsi qu'il sauve sa peau. C'est par
C'est exactement ça.
ces arguments.
Oui, c'est deux,
Oui.
ces arguments-là.
Qui prend cette décision? Y a-t-il quelqu'un qui a décidé qu'on ne guillotinerait pas David ou cette décision collective?
Ah
Comment ça
oui.
s'est passé?
Non, non. Ça se passe tout simplement comment, dans le comité. On instruit les différents procès et David en est quitte avec un certain nombre d'autres. En revanche, ça n'est pas le cas précédemment, les mois qui ont précédé. Lorsque David avait dû envoyer certains personnages à l'échafaud, eh bien, il avait de façon très autoritaire imposé, par exemple, que le vicomte de Beauharnais, le premier mari de Joséphine, soit envoyé à la guillotine, alors que lui, David, en ayant ses arguments, parvient enfin à convaincre. Il faut dire qu'il, quand même, il a surtout parmi les instances des amis qui lui sont chers et qui vont surtout permettre de faire oublier son passé un peu sulfureux en essayant, comme on dit, de jouer la montre et ça va lui être favorable parce qu'au moment où le régime du directoire s'instaure, eh bien, on sait que David peut être utile. Donc, à cette occasion, eh bien, au moment où on va rétablir les instituts, à ce qui va devenir ensuite de nouveau l'Académie des Beaux-Arts, eh bien, cet institut des Beaux-Arts, David est élu avec beaucoup de facilité et il rentre donc dans la troisième section dite des Beaux-Arts, où il figure en bonne place parmi les meilleurs peintres.
David, je suis en train de nous, bien sûr, nous allons faire une petite pause, un message de la radio, suivi d'une petite pause musicale, et puis nous aborderons la période post-révolutionnaire, naturellement, de la vie du peintre David. Mais vous venez d'expliquer qu'il était responsable de la mort de Beauharnais, du premier mari de Joséphine,
Oui.
et père d'Eugène,
Oui.
et père des enfants adoptifs de Napoléon. Il est responsable de la mort de Beauharnais.
Exactement.
Mais
Et ce qui veut dire qu'en
dire
réalité,
que
un peu comme...
c'est incroyable, pardonnez-moi,
Oui.
mais Joséphine ne lui en a jamais voulu. Eugène de Beauharnais,
Alors...
qui était donc le fils adoptif de l'empereur, et puis sa sœur, n'ont jamais reproché cela à Jacques-Louis David, n'ont jamais essayé d'influencer l'empereur pour qu'il se débarrasse de celui qui a tué leur père.
Non, parce que comme vous l'avez rappelé justement, c'est que c'est non seulement une décision évidemment d'un homme qui est président de la Convention, mais que c'est surtout une responsabilité collective
Oui.
et que Bonaparte faisait partie non pas des instances à ce moment-là, mais il faisait partie de l'entourage. Donc ils ont fait partie de cette histoire. Et quand Napoléon demandait par exemple à Fouché s'il n'avait pas de repentir d'avoir voté la mort du roi Louis XVI, eh bien Fouché de leur répondre, et notamment à Napoléon, mais c'est le premier service que j'ai rendu à Votre Majesté. Eh bien, David aurait pu répondre la même chose à Napoléon en lui disant, si j'ai exécuté Alexandre de Beauharnais, c'est peut-être le premier service que j'ai rendu à Votre Majesté, il n'aurait jamais épousé Joséphine sinon. Donc, on va dire que les circonstances étaient comme cela. Alors, on a du mal à les comprendre aujourd'hui, mais on
Oui.
va dire que toute cette période va passer finalement à la trappe et on va essayer de l'oublier de manière collective, en se disant, c'est une autre ère qui commence. Et le directoire est justement à ce titre une sorte de grande catharsis. Les femmes qui vont se présenter seront entièrement dénudées, ou du moins avec des mousselines et des gaz, qui ne cacheront pas finalement leur nudité, parce qu'on essaie de faire une grande fête collective pour oublier ce moment dramatique qu'on vient de vivre. Et donc, personne n'essaiera de revenir sur ces instants terribles que chacun a pu connaître.
Un mot, David Chantran, nous faisons cette petite pause. Un mot sur son œuvre, sur ses œuvres de la Révolution. Il y a trois toiles principalement, la mort de Lepelletier, il y a bien sûr Marat, et puis
Marat.
et Barat. Et ajoutons à cela le seul paysage qu'il ait peint lorsqu'il était emprisonné.
Oui,
Un
ces
mot
quatre
sur ses
tableaux,
œuvres?
Oui, ces quatre tableaux, ils sont intéressants parce que ce sont quatre œuvres qui ont compté à leur époque et qui continuent en fait de passionner les spécialistes et en particulier les amateurs d'art. Pour le Pelletier de Saint-Fargeau, on va dire que c'est la seule exception parce que la toile définitive, on n'en garde qu'un seul dessin préparatoire parce que la toile définitive qui a été longtemps exposée à la Convention a été détruite par la fille de le Pelletier de Saint-Fargeau qui elle-même étant de redevenue royaliste. N'a pas voulu que on garde de mémoire de l'engagement révolutionnaire de son père. Mais pour les deux autres, Marat et surtout le jeune Barat, ce sont deux façons de représenter des martyrs de la Révolution tout à fait exceptionnelles. D'abord parce que Marat, même si on peut en penser ce que l'on en veut, la façon dont David le représente dans sa baignoire, assassiné avec ce grand mur totalement nu derrière lui, fait penser à une sorte de descente de croix moderne, laïque, où, à la différence bien sûr d'une croix, c'est une baignoire, mais il est avec le côté rouge, avec un linceul et avec un linge sur la tête, et lui donne une figure finalement de martyr, de saint, tel que David a pu le présenter. Et de l'autre, le jeune tambour qui était victime d'un guet-apens royaliste, eh bien ce jeune tambour républicain, il est représenté entièrement nu pour montrer l'innocence et la pureté de la jeunesse. À la différence de ce guet-apens qui est fait par des adultes, et ce jeune tambour, il est laissé nu par ses adversaires, avec pour seul élément de décor une petite cocarde qu'il garde contre son sein. Et donc, ça va figurer au panthéon des grandes représentations de la Révolution. On en pense qu'on en veut, mais David a réussi par son talent à les rendre éternels.
Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Raphaël et son culotte.
C'est exactement cela. Parce qu'en dépit de toute cette radicalité et de tous ces jugements qu'on peut avoir à juste titre hein, contre ses jugements et ses réalisations qu'il a pu faire, eh bien son talent reste indéniable et il parvient à élever l'âme notamment de personnages qui pourraient être considérés comme des bourreaux ou des diables terribles qui ont pu exercer leur forfait pendant cette période.
Eh bien, David, je suis en train de vous proposer une façon, une petite pause. Nous avons un message de la radio à écouter, suivi d'une petite pause musicale. Nous écouterons de Bach le premier mouvement de la sonate pour viol de gambe numéro 3. Et puis, nous reprendrons cette discussion avec justement David lors du consulat, lors de l'Empire, bien sûr, et après, lorsqu'il est réfugié en Belgique, à Bruxelles. Surtout, restez bien en ligne.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure. Thank you.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous avons le plaisir de recevoir Jacques-Louis David, qui est historien de l'art, à l'occasion de la publication aux éditions Passé Composé de cette passionnante biographie consacrée au peintre David, Jacques-Louis David, l'empereur des peintres. David Chantran nous a raconté, en effet, la jeunesse de Jacques-Louis David, qui était en quelque sorte parrainé par des illustres peintres dans sa famille, comme le peintre Boucher. Il a été formé par ce peintre du néoclassicisme qui est vient. Après plusieurs échecs, il est envoyé à l'Académie de Rome, et c'est le début de ses peintures qui vont le rendre extrêmement fameux, extrêmement populaire, de peinture néoclassique avec des thèmes de la mythologie, qui fait dire, d'ailleurs, c'est une phrase que vous rappelez, David Chantran, dans votre biographie, plutôt les glaives que les perruques. Arrive la Révolution et ses engagements que David Chantran nous a expliqués. Il est même à la tête de l'État pendant quelques semaines. Il est très proche, en effet, de Robespierre. Il échappe peu à la guillotine en faisant valoir ses talents. Et puis, sans doute, David Chantran nous l'a rappelé, il possédait un certain nombre de dossiers sur les personnes, et la carte du temps l'aide, effectivement, à traverser c'est cette époque, et nous le retrouvons au temps donc du Directoire, puis du Consulat. Il est très proche donc de Bonaparte, et Bonaparte d'ailleurs lui propose de le suivre en Égypte. David Chantran, pourquoi il ne suit pas Bonaparte?
Parce que David est intéressé par un autre dossier tout aussi important à ses yeux, si ce n'est davantage, c'est celui du retour, ou du moins de l'installation d'un grand nombre de trésors italiens qui arrive à Paris. Dans ses conquêtes, Bonaparte avait fait razzia d'une grande partie des œuvres exposées dans les églises, et parce que la Révolution est anti-religieuse, et vous le savez, il faudra attendre le Concordat en 1801, eh bien David, finalement, va recevoir une grande partie de ses trésors et suit les différents comités qui doivent répartir les trésors, en particulier dans ce qui va devenir le musée du Louvre actuel. Et donc, lorsque revient Bonaparte avec l'Égypte en tête, et donc ce style, retour d'Égypte, qui va beaucoup marquer les esprits, avec à la tête un personnage qui deviendra d'ailleurs le directeur du musée du Louvre, vivant de nom, eh bien David n'a pas suivi ce parcours, et donc il se sent un petit peu à l'écart, mais il a dans sa poche, ou du moins dans son atelier, une réponse toute trouvée. C'est qu'il est en train d'achever un tableau très important, le fameux tableau des Sabines, oui, qui est une sorte de programme de ce que le consulat va réaliser, c'est-à-dire mettre fin au conflit, comme du temps des Sabines, entre les Romains et les Sabins. Bien, David, finalement, fait le parallèle entre les anciens Jacobins et les anciens monarchistes qui vont faire la France nouvelle, telle que Bonaparte le souhaite.
Et vous écrivez que ce tableau connaît un triomphe sans précédent.
Oui, parce que oui. David fait venir le public dans son atelier, ce qui est très nouveau. Avant, on devait attendre le tableau exposé au salon de peinture. Mais là, le public se presse avec autant d'éclat parce qu'ils apprennent par la rumeur que Bonaparte a adoré ce tableau. Et comme c'est le nouveau maître de la France, eh bien, on se presse pour aller voir la toile. Alors David a trouvé la solution. Il fait tout simplement payer l'entrée de son atelier. Et avec ce symbolique, mais quand même qui représente quand même une certaine somme à l'époque, de 1,80 franc par visiteur, il accumule une telle somme qu'il parvient à donc acheter un bien en Seine-et-Marne. Et donc, David devient un bourgeois totalement indépendant. Et il montre surtout que les artistes, justement, ne répondent plus uniquement aux commandes, mais qu'ils peuvent dépendre directement des visiteurs, des spectateurs, du public. Et qu'à ce titre, c'est tout à fait moderne. Par exemple, à l'exemple d'un Beethoven qui n'est plus maître de chapelle uniquement, mais qui peut directement vivre de ses symphonies qu'il écrit et de ses sonates, eh bien David peut dépendre directement de son art qu'il fait peindre et qu'il fait surtout payer par les spectateurs.
Qu'est-ce qui plaît dans ses œuvres? Ce sont les thèmes qu'il choisit ou c'est le style? Et si c'est le style...
Oui,
allez-y, pardonnez-moi, David, je suis en train de...
Non, mais c'est un peu les deux. C'est-à-dire que ce qui plaît, c'est que les thèmes qu'il choisit sont, je vais vous faire une comparaison, sont, parce qu'ils sont liés à l'Antiquité, plaisent parce que ça n'est pas directement lié à des aspects contemporains. Donc, on va dire que tout ce qui pourrait heurter les consciences d'épisodes qui leur font rappeler un passé un peu douloureux, David le dépasse en rappelant que dans l'Antiquité, il y a eu des épisodes un peu similaires, mais qu'on en est sorti parce que, par la grande porte, parce que justement, ils ont réussi à dépasser cette condition. Je vais vous faire une comparaison. C'est un peu, j'avais fait une biographie de Marcel Carné. Eh bien, au moment où Carné, le duo Carné-Prévert faisait des films pendant l'occupation, ils avaient choisi de faire porter leurs films dans deux périodes très éloignées de l'histoire contemporaine pour pas évoquer l'occupation au quotidien. Le film Les Visiteurs du Soir fait référence au Moyen-Âge et le film Les Enfants du Paradis, grand succès également, fait référence tout simplement à la période des années 1830 où le boulevard du crime, le boulevard donc où il y avait tant de théâtre, avait fait le bonheur des Français. Ben, c'est exactement la même chose. David choisit des périodes plus anciennes pour finalement parler des sujets qui intéressent le public sans pour autant que les personnages qui sont représentés soient ceux d'époque contemporaine. Et donc, il dépasse tout simplement le problème personnel et actuel.
Mais son style a-t-il évolué ou est-il un moment dans sa carrière où il va se fixer définitivement? Et
Jamais.
comment
Et
vous
c'est
le
ça.
décririez ce style d'ailleurs?
Il ne fixe jamais son style parce
Oui.
qu'on l'a toujours cantonné au style néoclassique, ce qu'il a été dans certains traitements de sujet. C'est vrai que dans cette façon de représenter l'Antiquité ou la mythologie, on retrouve les peintures qu'on a découvertes à Pompéi et Herculanum quelques années auparavant. Donc, on va dire qu'il est dans une certaine tradition, une certaine filiation stylistique. Mais de l'autre, lorsque vous voyez ses portraits, eh bien, certains de ses portraits de la période révolutionnaire ou même plus tardif ne seront pas sans évoquer la peinture de Ingres, seront même évoqués et seront des références pour des gens qui sont très éloignés d'un point de vue stylistique, comme Renoir, par exemple, dans ses portraits. Donc, on va dire que David, il fixe des traits ou des indications qui ne sont pas du tout dans la veine de ce qu'on a pu parfois établir pour lui. Il n'est pas dans un seul style. Et je vous donne un autre exemple. Au moment où il peindra donc le tableau du Sacre de Napoléon, celui qu'il prend comme référence d'une toile précédente, c'est Rubens, donc très éloigné aussi de son style habituel. Il prend l'esprit de Rubens à la lettre et il retransforme ce que Rubens avait fait pour le couronnement de Marie de Médicis. Il va le transformer et l'apporter pour le couronnement de Napoléon. Donc, on va dire que c'est vraiment une façon de travailler totalement différente de ce qu'on a pu imaginer.
Quand et comment devient-il le premier peintre de Bonaparte,
Alors,
puis de
oui,
Napoléon?
il le devient de façon assez étonnante, en refusant dans un premier temps le titre que Bonaparte lui accorde, en ayant vu chez Sabine, de premier peintre du gouvernement. Il dit que ça n'est pas suffisant pour lui. Il voudrait être premier peintre du consul. Mais comme le pouvoir n'est pas encore à l'identification unique, eh bien, il faudra attendre 4 années. Et c'est seulement en décembre 1804, quelques jours après le couronnement de Napoléon à Notre-Dame, après son sacre, que David devient premier peintre de l'empereur. C'est le titre qu'il attendait, puisqu'il est l'équivalent un peu de Charles Lebrun, qui était premier peintre du roi du temps de Louis XIV.
C'est vrai vous l'écrivez, hein, David Chantrenne, dans cette biographie Jacques-Louis David, aux éditions Passé Composé, David aime les honneurs. Et donc
Il est
forcément, il attache de
vraiment,
l'importance au titre.
ouais. Oui, il est vraiment attentif à cela. Il considère que tous les titres ne se valent pas et que son talent ne pourrait se contenter d'une demi-mesure. Donc, il cherche vraiment à obtenir tous les honneurs. Il est d'ailleurs chevalier de la Légion d'honneur. D'ailleurs, il a été engagé pour réfléchir à la façon dont la décoration devait être réalisée. Mais il est donc chevalier de la Légion d'honneur dans les premières promotions. Et ensuite, il deviendra officier à la fin de l'Empire. Donc, bardé de diplômes, reconnu pour son talent, devenu même baron de l'Empire, David est véritablement l'un des personnages les plus influents de son époque. Et il est élevé au rang les plus importants. Lui qui attendait tant d'honneur, eh bien, il reçoit les commandes faramineuses. Et on va dire que il est vraiment entendu dans tout ce qu'il a. La seule exception, elle n'est pas inintéressante. La seule exception, c'est qu'il va se voir refuser un portrait de l'empereur, qui va d'ailleurs valoir une certaine petite brouille avec Napoléon pendant 2 ans, mais qui va vite être rétabli au moment où il fera ses dernières grandes compositions du sacre, que sont le couronnement, justement, et la distribution des aigles.
À quel moment et en quelles circonstances il se voit refuser ce portrait de l'empereur ?
Il reçoit une commande de la part de Vivant de Non, donc bien sûr, indirectement, c'est par Napoléon,
oui.
Pour faire un portrait de Napoléon destiné à la ville de Gênes. On se souvient que Gênes a longtemps dominé la Corse, et donc c'était un peu la réponse d'un jeune Corse qui avait réussi pour montrer que par ce portrait, il écraserait, d'un point de vue seulement stylistique, mais qu'il écrasait ses nouveaux sujets. Or, David lui présente un Napoléon qui est un petit peu entouré d'un habit trop grand pour lui, d'une couronne qui n'arrive pas à ceindre véritablement, d'un sceptre et d'une main de justice trop grand pour sa personne. Donc, le résultat ne satisfait pas du tout Napoléon, et David en est quitte pour finalement ne réaliser que la préparation, l'esquisse préparatoire, et ne pas réaliser la toile qui sera confiée à un autre artiste, Giraudet. Voyant qu'il est un petit peu humilié de la sorte, David se contente à ce moment-là d'exécuter les quatre grands tableaux de 9 mètres par 6 dont il a reçu commande, et il commence par le tableau du sacre. Ça va rester une petite brouille entre les deux hommes, mais je vous le dis, on va vite l'oublier parce que les travaux qui s'engagent sont gigantesques. David s'installe dans l'ancienne église de Cluny. Il réunit près de 150 élèves qui s'affairent jour et nuit quasiment pour composer ce tableau. Et donc, le tableau du sacre va être réalisé en 3 ans et demi. C'est un travail considérable, une entreprise véritablement artistique, comme jamais peut-être on n'en a jamais connu du temps de la période contemporaine.
Et qui satisfera, j'imagine, Napoléon et Joséphine ?
Exactement, et notamment en particulier Joséphine, parce que dans un premier temps, Napoléon devait se couronner lui-même.
Oui.
Mais David, sous l'influence à la fois de Gérard et peut-être même de Joséphine par intermédiaire, eh bien Napoléon ne se couronne plus lui-même dans le tableau final, comme c'était prévu dans les préparations, mais il couronne Joséphine, et ça va beaucoup satisfaire effectivement Napoléon, qui, lorsqu'il voit le résultat final en janvier 1808, s'adresse à David en lui disant « David, vous avez lu dans mes pensées, vous m'avez fait chevalier français ». Et en sortant de l'atelier, il aurait eu ces mots « Ce n'est pas de la peinture, mais on marche littéralement dans cette toile ».
C'est tout de même un personnage très paradoxal, parce que l'ancien révolutionnaire, l'ancien jacobin, l'ancien chef de la Convention, eh bien, est anobli, il devient un baron d'Empire, il se voit attribuer des armoiries, et il fait porter par sa domesticité une livrée.
Tout à fait effectivement intéressant, c'est assez paradoxal, mais on va dire que c'est dans l'air du temps. Tous ces personnages qui ont tellement compté pendant la Révolution, finalement, sans trop sourciller, vont se mettre dans les chaussons de l'Empire en adoptant des attitudes qu'ils avaient dénoncées auparavant, mais dont ils vont finalement se complaire et finalement devenir peut-être pire que ceux qu'ils avaient dénoncés auparavant.
Alors vous évoquez effectivement l'immense réussite du sacre, du tableau du sacre. Louis Bonaparte dira que de ce tableau, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Chaque personnage, écrivez-vous, est travaillé spécifiquement, particulièrement, et vous soulignez dans ce tableau d'ailleurs la beauté de Pauline. C'était une réalité, la beauté de Pauline Bonaparte ?
Oui, c'était une réalité. Elle valait d'ailleurs... les jalousies d'un certain nombre de femmes qui l'entouraient. Et Pauline, par sa beauté, par sa proximité avec Napoléon, lui a valu d'ailleurs d'être portraiturée, cette fois-ci sculptée par le grand maître Canova. Et ce statue de Pauline fait vraiment honneur à sa beauté légendaire. On raconte que cette statue, qui aujourd'hui se trouve à Rome, valait à Pauline un certain nombre justement de remarques, en disant mais que l'artiste avait vraiment réalisé au centimètre près toute la beauté, avait rendu toute la beauté de la jeune femme. Et quand on lui disait que ça ne l'avait pas peut-être gêné d'avoir posé nu dans l'atelier du sculpteur, elle disait mais non, ça ne m'a pas gêné, puisqu'il y avait du feu dans la cheminée. Donc vous voyez, elle savait très bien répondre à toutes les critiques, en détournant aussi la question, pour tout simplement dire que ce qui aurait pu la gêner, ce n'était pas le froid, bien évidemment, mais le reste, mais ça, elle savait répondre à ses détracteurs. Mais justement, Pauline, c'est un personnage important parce que David va donc réaliser avec beaucoup de talent les différents portraits des 200 personnages qui figurent, que l'on reconnaît et que l'on a donc identifiés lors de l'exposition au Louvre en 2004, où j'étais commissaire adjoint. Et surtout parce que David, en 1822, donc au moment où il est en exil, décide de faire une réplique de ce tableau du Sacre. Et pour montrer qu'il s'agit bien d'une réplique et pas de l'original, eh bien, la robe de Pauline, qui était le personnage pour lui si identifiable, eh bien, la robe de Pauline n'est plus argentée comme elle était dans la première version, elle est rose, pour bien sûr qu'on distingue l'original de la copie.
David Chantraine, il faut revenir un peu en arrière tout de même sur l'un des tableaux de Jacques-Louis David, dont vous dites qu'il est le tournant de sa carrière. Il faut évoquer ce tableau, on peut le voir à Malmaison, d'ailleurs, c'est Bonaparte franchissant les Alpes.
C'est un tableau magistral à différents titres. D'abord parce qu'on sait que la réalité n'est pas celle-ci. Bonaparte a franchi les Alpes en 1800 avant de combattre à Marengo à dos de mulet. Mais pour glorifier à la fois son action et surtout les armées qui ont combattu, il ne fallait pas le montrer dans sa stricte réalité. Donc, Bonaparte est installé sur un cheval fougueux, il passe le col du Grand Saint-Bernard et l'on aperçoit derrière ses armées qui passent avec les différents canons pour traverser effectivement ce col avant de fondre sur les armées autrichiennes et hongroises qui les attendent de l'autre côté. L'autre aspect, c'est que ce col du Grand Saint-Bernard a vu passer d'illustres prédécesseurs, que ce soit Hannibal avec ses fameux éléphants, que Charlemagne, Carolus Magnus. Et donc, au pied du cheval fougueux que représente David, figurent les noms d'Hannibal et de Carolus Magnus, avec, bien sûr, à proximité, le nom de Bonaparte, qui montre que tout cela s'inscrit dans une tradition et une tradition valeureuse. L'autre aspect, enfin, c'est que cette toile va connaître un tel succès qu'elle est un cadeau diplomatique que fait Bonaparte, premier consul à l'époque, pour le nouvel allié de la France, qui est le roi d'Espagne, Charles IV. Avant que les Français et les Espagnols se fâchent, la France et l'Espagne avaient rétabli finalement le pacte de famille qu'avait instauré auparavant Louis XIV. Et apprenant cela, voyant que le succès est tel, eh bien Bonaparte est un peu fâché de voir la toile partir du côté de Madrid. Donc il commande 4 répliques à son peintre préféré, donc David, et ces 4 répliques, de la même manière qu'avec le Sacre, tout à l'heure je vous disais pour la robe de Pauline, ces 4 répliques vont changer à la fois dans le visage de Bonaparte, dans la couleur du cheval, dans la cape qui entoure son uniforme, pour bien sûr qu'on distingue l'original des 4 répliques. Et ces 4 répliques, il y en a une qui est destinée à Napoléon, la deuxième à Joséphine, la troisième au château de Versailles et ensuite aux Invalides, et enfin la quatrième, c'est David qui va la conserver, il va la faire tourner dans des expositions itinérantes, et il la conservera chez lui, dans son domicile, en face de sa chambre, et donc la première chose que le peintre verra en se levant le matin, c'est ce passage du Grand Saint-Bernard, et la dernière chose qu'il verra, c'est de saluer Bonaparte avant d'aller se coucher.
Il y a un détail de ce tableau qui est assez émouvant, c'est le manteau.
Oui.
Je vous laisse expliquer pourquoi.
Oui, c'est assez émouvant parce que cette cape, ce manteau, va changer de couleur en fonction effectivement des répliques que je viens d'évoquer, mais surtout cette cape doit montrer que Napoléon est en train de se diriger vers une nouvelle destinée. Et dans ce vent qui souffle dans cette cape, eh bien David, qui n'envisageait pas dans un premier temps, doit surtout à l'influence de ses élèves, et donc c'est pour rappeler que la pourpre impériale qui est en train d'environner ce jeune général de la République, finalement annonce des lendemains, et c'est assez émouvant de voir que finalement, avant même l'Empire, eh bien cette cape annonce la suite de la destinée de Napoléon.
Et ce manteau sera son linceul.
C'est ça qui est encore plus terrible,
parce que le linceul,
étonnant. C'est le manteau que Napoléon portait avec lui,
oui.
Et donc c'est avec cette cape. Et donc ce manteau, Napoléon va l'emporter avec lui à Sainte-Hélène. Et dans cette tenue, eh bien, il sera inhumé à Sainte-Hélène. Et donc, on va dire que la toile de David ayant eu une telle prestige, une telle aura, eh bien, Napoléon sera donc inhumé avec ce manteau de Marengo et avec son épée d'Austerlitz. C'est une sorte de résumé parfait de sa carrière et de sa destinée.
Nous avons le message d'un auditeur qui vous remercie pour vos propos. Il vous pose cette question. Est-ce que la propriété de David est à Auzouer-le-Voulgis, près de Melun,
oui.
La ferme de Marcoussis de 950 hectares, dont 44 pour sa promenade?
C'est exactement cela. J'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage, parce que David était attaché à la Seine-et-Marne et à cette région en particulier que votre auditeur cite, parce que sa femme avait une belle-sœur qui s'était installée à proximité. Et lorsque David est sorti de prison, c'est chez son beau-frère, M. Cérisia, et sa belle-sœur qu'il a trouvé refuge. Et donc, en ayant apprécié la région, il s'était juré d'un jour de devenir propriétaire. Et quand il a fait payer l'entrée de son atelier, eh bien, il est devenu propriétaire, effectivement, d'Oswer, d'une ferme à proximité, là où se trouvaient sa belle-sœur et son beau-frère.
Alors, nous sommes à l'apogée, au couronnement de la carrière de Jacques-Louis David, David Chanterin. David est devenu le premier peintre de l'empereur. Il nous reste seulement 7 petites minutes à passer en votre compagnie pour évoquer la suite de la carrière de Jacques-Louis David sous l'Empire, et puis son exil et sa fin à Bruxelles.
C'est une période assez terrible parce que l'Empire n'est plus l'Empire aussi glorieux qu'on l'a connu en 1804-1807, au moment où le tableau est achevé, et en 1808 au moment de la présentation. Donc David achève rapidement la distribution des aigles, mais les temps ont changé. Napoléon n'est plus avec Joséphine, donc il faut aller assez vite. Et on ne peut pas présenter à la nouvelle impératrice celle qui la précédait. Donc les deux autres tableaux qui étaient prévus, l'intronisation dans un premier temps et la visite à l'hôtel de ville, resteront dans les cartons. Et David se contente finalement d'un portrait très, très admirable quand même de Napoléon dans son cabinet de travail et de quelques portraits de familiers. Mais l'Empire décline. David a d'ailleurs ses membres de son entourage, comme ses fils, ses deux fils et ses deux gendres, qui sont soit aux armées, soit qui ont des responsabilités politiques. Mais lorsque Napoléon abdique en 1814, il est finalement en première loge. Et il n'accompagne pas Napoléon à l'île d'Elbe, mais il l'attend à son retour. Et au moment des 100 jours, il est l'un des premiers à l'accueillir aux Tuileries. Et il lui fait d'ailleurs visiter son atelier pour lui montrer une dernière toile qu'il représente. C'est le Léonidas aux Thermopyles, je le disais, le moment où le combattant spartiate s'apprête avec 300 derniers soldats à affronter l'adversaire.
Et il faut préciser que sa famille, ses enfants sont très engagés aussi dans l'Empire. Un de ses fils, Eugène, est blessé à Leipzig en janvier 1814, et ses filles épousent des généraux d'Empire.
Complètement, et d'ailleurs, ces deux gendres auront une belle carrière dans les armées, et l'autre fils, vous aviez évoqué celui qui a été blessé, mais l'autre fils sera sous-préfet et aura de très hautes responsabilités. Donc David, il est vraiment engagé à plein dans cet empire qui, hélas, on le disait, donc pour lui, va finir à ce moment-là, et en 1815, alors qu'il a été donc régicide, il a voté la mort de Louis XVI, qu'il a instruit le procès de la reine, eh bien, il a fait un dernier acte terrible vis-à-vis des Bourbons, c'est qu'il a signé l'acte additionnel aux constitutions de l'Empire, qui indique dans un de ses articles qu'il faut tout faire de son possible pour éviter que les Bourbons ne reviennent sur le trône aux Tuileries. Et par cet acte-là, eh bien, David, d'une certaine manière, a signé son acte de décès politique. Et il lui faut donc prendre le chemin de l'exil, ce qu'il va faire.
À quel titre signe-t-il cet acte additionnel ? À quel titre ?
Il le fait parce qu'il le fait en tant qu'ancien député, et surtout parce qu'il est un des personnages influents de l'époque. Et donc, en s'engageant de la sorte, il pense envoyer avec lui tous les membres de l'Institut qui l'entourent. Et donc, c'est un personnage qui compte énormément, qui a encore une puissance publique très importante. Donc, cette signature lui vaut de grandes inimitiés, en particulier, bien sûr, des royalistes qui reviendront aussi aux affaires.
Vous écrivez dans cette superbe biographie David Chantrain, Jacques-Louis David, l'empereur des peintres, aux éditions Passé Composé, qu'en effet, il doit quitter la France, il s'exile à Bruxelles, mais on lui propose de devenir le directeur des arts de la Prusse. C'est assez extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire et assez contradictoire. Lui qui avait combattu par tous les moyens les adversaires de Napoléon, eh bien, l'un des adversaires de Napoléon, le roi de Prusse, lui demande de devenir l'équivalent à Berlin. Eh bien, il s'y refuse, comme d'ailleurs il se refusera, c'est assez amusant, il se refusera un jour, alors qu'il reçoit la visite de Wellington et qu'il lui demande son portrait, il s'y refuse en lui répondant « Sachez, monsieur, vous l'adversaire de Napoléon à Waterloo, sachez, monsieur, que je ne peins que l'histoire. » Comprenez, chers auditeurs, qu'en réalité, il ne veut pas peindre l'adversaire principal qui a battu Napoléon dans son ultime bataille.
Tout n'est pas mauvais dans cet homme, dans ses réactions qui peuvent se montrer parfois, effectivement, avec un certain panache tout de même.
C'est ça. Alors, ce panache, parfois, lui vaut des critiques, à juste titre, mais au moins, on peut considérer que dans les dernières toiles qu'il réalisera à Bruxelles en exil, il y a toujours une part de fidélité à la fois aux amis qui l'ont entouré à Paris et en particulier à Napoléon, que ce soit le tableau, par exemple des adieux de Télémaque, c'est pour, avec le visage de l'aiglon devenu Dugger Hashtag, c'est un rappel que le fils attend le retour du père. Comprenez par là, donc Télémaque attend Ulysse et le duc de Rastatt attend le retour de Napoléon. De la même manière, lorsqu'il apprend la mort de l'empereur à Sainte-Hélène de la voix de ses deux nièces, que sont Zénaïde et Charlotte Bonaparte, les filles de Joseph, qui deviennent ses élèves à Bruxelles, eh bien, lorsqu'il apprend la mort de Napoléon, pendant 3 jours, il refuse de se nourrir. Et lorsqu'il revient à ses esprits et qu'il retrouve son entourage, il leur dit, mes amis, nous allons faire la réplique du Sacre. Donc 9 mètres par 6, ça va prendre 1 an et demi, et ce tableau va connaître un tel succès qu'il sera exposé à travers le monde, que ce soit en Angleterre même et jusqu'aux États-Unis.
Alors vous expliquez, vous écrivez que David meurt en examinant d'ailleurs une gravure de Léonidas. Il meurt le 29 décembre 1825, et étonnamment, il fait l'objet d'un certain nombre d'attaques, de critiques, de jugements sévères, dont notamment celui de Stendhal que vous citez dans votre livre, David
Oui,
Chantraine.
exactement. Ça lui vaut un certain nombre de critiques parce qu'on considère qu'il reste quand même une sorte de dictateur des arts et qu'à ce titre, sa peinture a tellement été imposante qu'il n'y avait plus de place pour d'autres styles. Mais c'est tout à fait faux. En réalité, même s'il est vrai qu'il a tellement imposé par son talent une grande partie de la production de l'époque, c'est tout à fait faux. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, dans son atelier même, se trouvaient différents styles, que ce soit les primitifs, que ce soit même les pré-romantiques. Et donc, il les a librement laissés s'expliquer, s'appliquer. Et donc, on ne peut que reconnaître au moins cet aspect-là dans son travail.
Eh bien, David Chantraine, merci beaucoup d'être venu ce soir en direct évoquer donc Jacques-Louis David, tel que vous le faites de manière passionnante dans votre livre que vous publiez aux éditions Passé Composé. Merci beaucoup à vous d'être venu ce soir en direct. Merci à Stéphane, à la technique qui a réalisé cette émission. Et merci à Laurent qui a pris vos messages au standard, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Merci beaucoup à vous tous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas que Radio Courtoisie a besoin de votre soutien. Très bon dimanche soir à vous tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Amitiés Françaises dirigé par Thierry Delcourt, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 14 juin 2026 de 18h à 21h et réalisé par Stéphane. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.